ses facettes.
Je pense que dans le prochain volet, on va parler du sport provincial, canadien, puis interplanétaire, comme on vient de dire dans l'extrait audio qu'on a entendu juste avant de revenir en onde. Je m'entretiens avec Ray Lalonde, qui est l'expert sport et business pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi.
Oui, ça va bien. Ray, les assistances de la Ligue nationale de hockey sont maintenant publiées. On en est arrivé à la fin de la saison. Est-ce que le bilan est positif?
Ben, écoute, honnêtement, Dan, c'est une progression lente, mais certaine, okay, lorsqu'on pense à la Ligue nationale de hockey, surtout dans des marchés où il y a du potentiel pour augmenter, donc particulièrement dans les marchés non traditionnels. Alors, en général, cette année, 3,5 d'augmentation en termes de volume, 17 456. L'an dernier, c'était 16 864. Ça, c'est les 31 équipes incluses. Les Blackhawks dominent parce qu'ils ont le plus grand amphithéâtre.
Oui.
Ils sont pleins, puis ils rentrent du monde dans les loges extra, puis dans les restaurants, puis ils les comptent tous. Fait qu'imagine, ils arrivent à 107,8% de capacité. C'est quand même important.
Okay.
Canadiens en baisse, par exemple. 1,2% de moins.
Ah.
C'est 250-300 billets pas vendus tous les matchs. Encore une fois, je veux faire une précision pour nos auditeurs. Ça, ce sont les chiffres qui sont pas les chiffres comptables de la Ligue nationale. Ce sont les chiffres publics. Ce qui veut dire que ça inclut les billets distribués, donc donnés et vendus ensemble. C'est pas les billets uniquement vendus. Donc,
okay,
pas tout à fait représentatif du chiffre qu'on cherche à avoir. Mais parmi les surprises, Dan, je suis obligé de te dire là, que Caroline, avec le fait qu'ils ont poussé fort pour atteindre les séries, puis là, ils menacent littéralement les Capitals de Washington, sont en hausse de 7,5%. Et Arizona, 7,3%. Alors, tu vas me dire, c'est pas toujours les images qu'on voit. C'est vrai qu'il y a encore 5-6 000 billets ou sièges inoccupés, mais ils sont en progression. Ils ont une équipe plus compétitive dans les deux cas. Et c'est important, ça, pour ces marchés-là, d'avoir un peu d'enthousiasme puis d'espoir pour l'avenir. Mais c'est une longue route avant de remplir les étapes.
OK. Puisqu'on parle de hockey, le Canadien a annoncé hier soir qu'il n'allait pas venir à Québec à l'automne pour son match hors concours, prétextant une visite au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la promotion Kraft Hockeyville. Le Canadien a décidé de jouer ses autres matchs hors concours à domicile au Centre Bell. Une bonne décision ou une erreur, selon toi?
Bien, tu sais, regardons-le de façon purement objective. Chaque fois que le Canadien joue un match pré-saison au Centre Bell, c'est le même revenu, Dan, qu'un match de saison régulière. Pourquoi? Parce que les billets coûtent le même prix. Fait que finalement, c'est comme 4-5 matchs de plus à la maison. Les Canadiens font au moins entre 2 et 3 millions par match. Alors, tu comprends que même aller au Nouveau-Brunswick, on sacrifie un match sur la route, mais aller à Québec, ça représentait souvent un match à domicile de moins. Bon, ceci étant, il y a beaucoup de gradins au Centre Vidéotron. Il y a de l'argent à faire pour les Canadiens là aussi. Mais c'est pas aussi simple que de juste jouer un match à la maison. Alors, sur le plan objectif puis purement revenu, là, bon, les Canadiens gagnent à jouer tous leurs matchs à la maison. Pourquoi aller sur la route? D'ailleurs, depuis des années, les seules places qui vont sur la route, c'est Toronto, Ottawa, parce que c'est au Canada, ça coûte moins cher, il y a moins de dépenses, tu peux y aller en autobus puis en avion le jour du match, dans les deux cas. Alors, aller au Nouveau-Brunswick, ça va être la même chose. Alors, personnellement, sur le plan subjectif, moi, je pense que le Canadien rate une occasion de poursuivre sa croissance dans le marché de Québec, qui est un marché vital pour eux en termes de fans des Canadiens. Et là, on parlera pas du jour que les Nordiques vont venir, parce que là, ces gens-là vont se tourner pour les Nordiques, les Canadiens vont les perdre.
OK. L'effet Tiger, évidemment, on a vécu un dimanche de rêve. Tiger a réussi l'exploit de redevenir le champion du tournoi des maîtres. Toi, t'analyses beaucoup le sport en fonction du marketing relié au sport. Nike avait déjà préparé sa pub. On l'a immédiatement diffusée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au-delà de la victoire de Tiger et de sa valorisation personnelle d'être devenu un golfeur de premier plan, est-ce qu'immédiatement après, le deuxième grand gagnant de cette victoire-là, c'est Nike?
Absolument. Absolument. Puis je suis quasiment obligé de dire presque à égalité, Dan.
Okay.
Parce que même si Tiger, à mon avis, c'est la plus grande victoire de sa carrière. Puis il en a connu des victoires. Il y a 81 victoires,
ouais,
en PGA Tour.
Ouais.
Il en manque une pour rejoindre Sam Snead. Mais au-delà de ça, Nike est resté fidèle à Tiger. Nike est resté loyal. Nike est resté au rendez-vous malgré les difficultés. Ils ne l'ont jamais abandonné. Il y a deux raisons. Premièrement, Nike est toujours très, mettons, je vais les appeler égoïstes, mais dans le bon sens. Ils voient leur marque, puis ils savaient toujours que Tiger était Tiger. C'est juste que là, ils ne performaient pas pour des raisons, que ce soit psychologiques ou physiques. Mais ils n'ont jamais abandonné parce qu'ils savent que personne sur la planète sportive ne réussit à faire vibrer ou à faire arrêter le cœur des gens. Alors, ce que ça veut dire par là, c'est que quand Nike reste avec Tiger, puis Tiger revient, même dans les tournois de l'année dernière où il était proche, les cotes d'écoute étaient à la hausse, Nike reçoit tellement de visibilité. Dimanche, 22,5 millions de dollars US en visibilité pour Nike. Le lendemain, la bourse indiquait une hausse de 2 % du marché pour la cote de Nike, l'action de Nike, 2 milliards de dollars en valeur en capitalisation. Et Acushnet Titleist pour les balles, et ensuite Bridgestone en vente 50 % de plus de produits versus l'année passée. Callaway et Acushnet, ils n'ont même pas des produits que Tiger utilise, et eux ont vu des augmentations de 4 et 5 % respectivement sur le marché boursier. Alors Tiger, il ne bouge pas juste l'aiguille de Nike, Dan, il bouge l'aiguille du golf, et personne ne peut accoter Tiger Woods à ce niveau-là, parce que honnêtement, dans tout le sport, les autres athlètes de la planète se sont arrêtés eux aussi. J'entendais Raphaël Nadal parler. Raphaël Nadal, il n'y a rien à envier à Tiger Woods. Il y en a plus de tournois majeurs. Puis lui aussi a 80 championnats. Et c'est un champion ultime. Et lui, il dit que mon athlète préféré, c'est Tiger Woods. C'est quand même impressionnant que les autres athlètes se rangent derrière lui.
Est-ce que dans cette association, Ray, toi qui es l'expert du marketing sportif, est-ce que Tiger était meilleur pour Nike que Nike a été meilleur pour Tiger?
Hey boy! Ouh, bonne question! Bonne question. Je pense que Nike n'aurait jamais eu une pénétration dans le golf, même si officiellement, ils ne font plus d'équipement. Ils font des chandails, des casquettes et des souliers, mais ils ne sont plus dans le bâton ou dans les balles. Mais il n'y aurait jamais eu cette pénétration-là, cette entrée-là, si ce n'était pas de Tiger Woods. Et parallèlement, je suis obligé de dire que, encore une fois, le seul qui est demeuré fidèle à Tiger, quand Buick, Accenture, toutes les autres compagnies ont abandonné Tiger Woods, ben, le seul qui était au rendez-vous, c'est Nike. Alors, Tiger a été très chanceux d'avoir une compagnie comme Nike derrière lui. Et ensemble, c'est un mariage parfait. Parce que toujours un peu de controverse, toujours un peu de grande vision, toujours des grands coups d'éclat. Nike a l'habitude de s'associer à des athlètes qui font des choses extraordinaires. Et Tiger l'a fait encore une fois. Alors, c'est pour ça que Nike est tellement supérieur aux autres. Et pas juste en part de marché, Dan. Parce qu'ils prennent des chances, ils prennent des risques. Ils vont où les autres ne veulent pas aller. Et ça a été encore une fois récompensé.
Les gens qui écoutent Ray parler actuellement puis qui voudraient l'écouter encore plus longtemps, bien, dans mon émission, c'est rarement possible parce qu'on a juste une heure d'émission. Mais Ray va donner une conférence qui, en partenariat avec le FM 93 et l'Observatoire du sport de la capitale, va être présentée le 7 mai à l'Université Laval. Ray, on a appelé ça le Forum du sport. Évidemment, Frank Pons et Glenn Constantin vont te joindre à toi. Mais j'ai très hâte que le public puisse assister à cette soirée-là. Et les gens qui n'étaient pas au courant, ben les billets sont en vente. On a lancé ça cette semaine. Là. Si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas deux mois en retard. On vient juste de lancer l'événement. Les billets sont en vente sur evenbright.ca. Et j'ai très hâte qu'on puisse présenter le produit d'une conférence commune aux auditeurs.
Ouais, ben, tu sais, moi, je trouve que c'est un privilège d'aller à Québec puis d'être en ta compagnie, Dan, pour faire ça. Glenn Constantin, c'est un ami de longue date. C'est évidemment le plus célèbre des entraîneurs dans tout le sport canadien, puis vous êtes chanceux de l'avoir à Laval. Frank Pont, c'est un académicien qui a énormément de background, surtout au niveau de l'Europe puis de l'Amérique, sur la business du sport, le management du sport en classe et du côté académique. Alors, on a une combinaison que je pense qui est la meilleure pour les auditeurs de Québec, les gens d'affaires, comme les jeunes qui aspirent à rentrer dans le sport, comme les fans tout court. Puis on va le faire dans un format où il va y avoir un peu un dialogue, là, dans une espèce de conseil de ville, un town hall, si on veut. Alors, évidemment, c'est une première, on tente le coup, puis Laval nous accueille. On est privilégiés d'être à l'Observatoire en management du sport à Laval. Et je pense que c'est une chance de justement avoir un 2 heures pacté de conversation d'un entraîneur chevronné comme Glenn, qui va parler de la gestion d'un club, jusqu'à un gars qui est en classe comme Frank et moi avec mon expérience de 33 années dans l'industrie.
Ça va être fascinant. C'est le 7 mai prochain. Les gens qui... Là, évidemment, on a juste 100 billets à vendre. Fait que pensez pas que vous allez pouvoir acheter votre billet pendant un mois et demi. Là. C'est le 7 mai, puis on a juste 100 billets à vendre. Donc, vous achetez vos billets sur eventbrite.ca. C'est très facile, via le web, de pouvoir vous procurer un billet pour cette soirée-là, mardi, le 7 mai prochain, à l'Université Laval. Ray, avant de te laisser, est-ce que j'ai compris que tu étais présent pour la loterie de la LHGMQ aujourd'hui?
Oui, effectivement. Mais... Gilles Courtois puis Martin Lavallée m'ont appelé hier pour de me demander d'être un témoin
okay.
neutre
mais
pour
quel...
observer le
mais...
boulier.
Mais quel coup de théâtre!
Incroyable, incroyable. Honnêtement, là, devant mes yeux, là, j'en revenais pas qu'est-ce qui est arrivé là. Et puis j'en ai vu dans de loin là, des loteries de NBA puis de NHL.
Ouais.
Mais là, c'est un privilège. J'étais content d'aider la Ligue. On est des bons amis, des bons partenaires. Mais j'en reviens pas encore ce qui est arrivé. C'est phénoménal.
Non, absolument. Je pense que on va vivre vieux. On espère vivre vieux, mais je suis pas certain qu'on va revoir ça.
Non, absolument pas. C'était quand même émouvant, puis très content pour Saint-John qui a gagné ça. Puis encore une fois, ça démontre encore le professionnalisme de la Ligue d'hockey junior majeur. Ils font les choses comme dans la Ligue nationale. C'est
oui.
fait avec professionnels. TVA Sports était au rendez-vous. Ils ont fait un excellent travail eux aussi. Alors bravo à tout le monde.
Parfait. Un gros merci, Ray.
Salut Dan, bonne soirée, bon week-end, joyeux sport.
Bonne soirée.